Radio Kapi.
Le journal, présenté par Gisèle Cage. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être nombreux à l'écoute de ce journal dont voici le titre. Oxfam, une organisation humanitaire, appelle à une aide internationale urgente pour les personnes déplacées par la guerre dans la province du Nord Kivu. Selon le communiqué de l'organisation, ces déplacés manquent de tout et sont constamment en mouvement. L'Office national de transport annonce dans un communiqué la reprise imminente des activités du train urbain. Cette nouvelle plonge dans le désarroi les familles ayant construit sur ou à proximité des rails. Le processus de déguerpissement a été initié pour accélérer la réhabilitation du chemin de fer. La deuxième phase du programme de civisme citoyen post-électoral des jeunes en RDC a été lancée hier par l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Quels sont les avantages de ce programme? On en parle tout à l'heure avec Trésor Kalongi, responsable du chapitre Afrique de l'Est du programme Yali. Il est l'invité de ce journal. L'organisation humanitaire Oxfam appelle à une aide internationale immédiate pour les déplacés en raison de l'insécurité actuelle dans la province du Nord Kivu. Cette organisation dénonce une situation où des centaines de milliers de personnes fuient les combats, manquent de tout et se déplacent continuellement d'un endroit à un autre. Oxfam évoque également un risque accru d'épidémie. Plus de détails dans ce communiqué avec Donna Madimba.
Dans ce communiqué, Oxfam renseigne que ces déplacés se comptent désormais par plusieurs centaines de milliers. Ce communiqué évoque même l'exemple d'un site de déplacés qui comptait jusqu'à 600 000 personnes avant de se retrouver vide aujourd'hui. Ces personnes fuient partout où elles peuvent, à Goma et les alentours, dans des endroits inadéquats comme les écoles, les églises ou tout espace disponible. Selon Oxfam, ces déplacés manquent de tout le nécessaire comme l'eau, la nourriture, les couvertures ou des médicaments. Même des camps qui abritaient déjà des déplacés de cette même confrontation entre l'armée de la RDC et le M23 se vident à répétition. Un témoin a même confié à Oxfam que certaines familles de ces déplacés sont à leur 7e déplacement. Et cette situation de manque d'abri et d'assistance essentielle, selon toujours Oxfam, aggrave le traumatisme des déplacés et crée un risque des épidémies, y compris le Mpox qui sévit déjà en RDC avec un nombre important de victimes.
Pendant ces temps, à Goma, les activités socio-économiques ont repris timidement, à l'exception des écoles, ce vendredi 24 janvier. Après la psychose qui a gagné les habitants hier jeudi, bien que la situation sécuritaire reste incertaine, les habitants de différents quartiers, notamment de la partie ouest, ont exercé environ 60% de leurs activités quotidiennes tout en restant prudents. Sifa Magorio nous en parle.
Après une nuit marquée par des détonations d'armes lourdes, les habitants des quartiers périphériques, notamment Mugunga, Muja, Turunga et Bugamba, ont repris timidement leurs activités ce matin. Cependant, au centre-ville, ainsi que dans les quartiers peupleux, dont Katindo, ULPGL, Birere, les activités ont ouvert à 60% jusque dans la matinée. Les transports en commun, certaines boutiques fonctionnent depuis tôt ce matin et les travailleurs se sont rendus à leurs services respectifs. Pour ce qui est des écoles publiques et privées agréées, un message des autorités scolaires demande aux parents de garder les enfants à la maison en attendant le retour à la sécurité. Les voyages lacustres et aériens, mais aussi les échanges transfrontaliers, se déroulent quant à eux normalement. Goma Sifamagoro, Radio Okapi.
Dans la province de l'Ituri, au moins 8 personnes ont été tuées entre mardi et mercredi par des présumés ADF à Ndimo et à Pakola, deux localités situées sur le tronçon routier Komanda Luna, dans le sud du territoire d'Irumu, selon l'Organisation Convention pour le Respect des Droits Humains, CRDH, qui a fourni cette information. Une trentaine de civils ont été tués par ce rebelle depuis le début de l'année dans cette région. La CRDH s'appelle les forces armées congolaises et ougandaises à faire preuve de plus d'efficacité pour mettre fin au calvaire que vit la population depuis une décennie. Martial Kizabiamungu.
Les premières victimes de ces attaques attribuées aux rebelles de Zadef sont des taximens moto qui se trouvaient au centre d'Ndjimo au moment de l'incursion de ces rebelles. Ces derniers, selon des sources locales, cherchaient à se ravitailler à nourriture et médicaments. Ils ont ouvert le feu de toutes les directions pour effrayer la population. La Convention pour le respect des droits humains, CRDH, indique que 3 motos ont été incendiées par ces rebelles dans la même entité. Non loin de là, à Apakola, de jeunes qui s'est rendu au champ jeudi matin ont découvert 5 corps de civils probablement tués par ces rebelles, indique la même source. Cette structure de défense des droits humains s'inquiète de la recrudescence des tueries dans la chefferie de Wallace-et-Vokoutou, alors que, selon elle, les armées congolaises et ougandaises mènent des opérations contre les ADF dans cette région. Christophe Mouyadirou, les coordonnateurs de l'ONG CRDH.
Aux opérations conjointes phares de ces UPDF, vraiment, les amateurs de l'opération Souja nous doivent des explications claires et nous dire comment les civils continuent à être tués dans leur zone opérationnelle.
Nous n'avons pas réussi à joindre l'armée pour avoir sa réaction. Bounia Martial, Kiza Biamungu, Radio Okapi.
En ce qui concerne la situation sécuritaire dans les territoires de Kwamout, dans le Maïndombe, une accalmie est observée depuis quelques mois. Cependant, les miliciens Mobondo restent présents dans la forêt, empêchant ainsi la population locale de vaquer librement à ses occupations champêtres. En conséquence, la pauvreté et la famine augmentent au sein de la population. C'est ce qu'a rapporté le député national Guy Moussomo à son arrivée jeudi à Bandundouville. L'élu de Kwamout appelle à la responsabilité du gouvernement congolais pour mettre fin à cette situation qui dure depuis plus de 2 ans. Le député national Guy Moussomo est au micro de Irène Mboma Luzolo.
Malgré qu'il y a une certaine accalmie, mais les miliciens sont toujours très très actifs. Parce que vous savez, le mois passé, on avait brûlé des gens dans des maisons, on a brûlé des villages, on continue à tuer. Le gouvernement doit faire les efforts pour mettre fin à cela, parce que nous nous sommes toujours posé la question. Comment est-ce qu'avec les Kamwanasa, ça n'a fait que 2 semaines? Et à Kwamutu, c'est 2 ans, plus de 2 ans. C'est incompréhensible. Alors, pourquoi le gouvernement laisse la population de Kwamutu souffrir? Moi, quand je suis arrivé, vous sentez la tristesse. Vous sentez les gens en train de souffrir. Qui travaille encore? Parce que les miliciens sont dans la forêt. Nos populations mangent dans la forêt, mais ils ne font plus rien. Les travaux champêtres, plus rien. Les gens meurent. À Kinshasa, nous remplaçons le gouvernement congolais, parce que c'est chaque jour on enterre les gens. Et ça nous touche, mais vraiment le gouvernement doit faire tout pour trouver des solutions idoines et le plus tôt que possible. Sinon, le territoire de Kwamutu risquera de ne plus exister.
Dans un message intitulé « Entrons dans les combats de la paix » daté du 23 janvier, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi dénonce l'insécurité qui sévit dans les grandes villes de la province du Haut-Katanga. Fulgence Muteba appelle la population à respecter le couvre-feu décrété par les autorités et à dénoncer le malfrat tout en privilégiant le vivre ensemble et la cohabitation pacifique. Plus de détails sur ce message avec Jean Gandou.
L'archevêque métropolitain de Lubumbashi fait un constat amer. Le vol à main armée, l'extorsion de l'argent et de biens précieux, le viol, des assassinats crapuleux, des surcroît à l'arme blanche, sévissent impitoyablement dans notre société. D'après lui, chaque jour, ces fléaux font de nombreuses victimes innocentes. Pourtant, la vie humaine est précieuse, sacrée et inviolable, et on ne peut donc pas la banaliser. Pour cela, il invite tout le monde à entrer dans le combat de la paix. Voilà pourquoi il appelle la population à dénoncer les vrais auteurs de ces tueries sans tomber dans l'amalgame. En outre, il rappelle que les autorités et les services de l'ordre font ce qu'ils peuvent pour sécuriser la population. Il faut donc les soutenir. Il invite ainsi les uns et les autres à ne pas se faire justice, mais à privilégier le vivre ensemble et la cohabitation pacifique. Fulgence Muteba appelle aussi la population à respecter le couvre-feu décrété il y a peu par les autorités pour lutter contre la criminalité urbaine. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Ce journal se poursuit sur Radio Okapi. À Kinshasa, la paix a quitté plusieurs ménages qui ont érigé leur domicile sur ou trop près de la voie ferrée. L'Office national de transport en Atra a en effet publié un communiqué annonçant la reprise prochaine des activités du train urbain. Il demande par conséquent à toutes ces personnes de quitter ces lieux au sein de ces familles sur le désarroi. Elle plaide pour un soutien, soit par l'octroi d'un site, soit par une garantie locative. Plotin Yambinga et Mudumbi Benjamin ont visité les familles installées dans les communes de Barumbu. Voici leur reportage.
Ils sont plusieurs centaines, ces ménages qui habitent à moins d'un mètre des rails dans la commune de Barumbu. Leurs habitations sont construites en matériaux non durables. Habitant les coins depuis une vingtaine d'années, cette dame revient sur les conditions de vie difficiles à cet endroit.
En tout cas, nous n'avons pas de toilettes, nous n'avons pas de place pour se laver. L'électricité aussi, c'est très difficile pour nous. Et l'eau aussi. Nous restons toujours comme ça. Hein. Après la mort de mon mari, je n'avais rien, c'est pour cela que je suis venue rester ici. Nous sommes beaucoup, avec des petits-enfants, même les veuves.
Tous ceux que nous avons rencontrés disent être disposés à libérer ces espaces qu'ils occupent illégalement, mais à certaines conditions.
Nous ne saurons pas prendre des maisons en location. Les loyers coûtent trop cher, nous n'aurons pas 300 ou 400 dollars de loyer à payer. Qu'ils nous préparent un bon site à Maluku ou Kinkole et qu'ils construisent pour nous, nous allons partir. Avant de nous déquerpir, qu'ils nous préparent un montant consistant et des bateaux pour amener au village ceux qui les veulent.
Le processus de déquerpissement de ces familles a été initié en vue d'accélérer la réhabilitation du chemin de fer. Cela pour alléger les problèmes de mobilité à travers la ville.
Restons sur ce même sujet. L'Office national de transport précise qu'aucun contrat n'a été signé avec les personnes ayant construit sur ou à proximité de rails. Selon Georges Fouki, directeur chargé du chemin de fer urbain, toute personne ayant construit sur le rail en assume la responsabilité. Georges Fouki, directeur du chemin de fer urbain de l'ONATRA, le dit au micro de Blaise Shindani Kambala.
Nous avons déjà commencé. Vous pouvez descendre sur le terrain. Au moment que je vous parle, je descends pour la gare Kinesse jusqu'à l'aéroport. Je descends maintenant avec la Drésine. Donc nous avons déjà commencé. C'est lui qui s'occupe de ce terrain-là. C'est lui qui est riverain, qui n'a pas respecté la distance de la voie par rapport à nos instructions. Il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Mais nous sommes déjà avancés. Je ne peux pas vous donner quand est-ce qu'on va faire, quand est-ce qu'on va dire, mais nous sommes en train d'avancer.
Au cas où ils opposeraient une résistance, que ferait l'ONATRA?
Il ne peut pas résister, il ne peut pas s'opposer, parce que là, il s'oppose avec l'État congolais. La terre et le sous-sol appartiennent à l'État congolais. Cette voie-là, c'était la voie des trains urbains pour l'État congolais. Donc, s'il est fort contre l'État congolais, là, il reste, hein, mais je sais que tout le monde est sous la loi. Il doit respecter la loi congolaise.
L'actualité, c'est aussi ce dysfonctionnement dans les établissements d'enseignement primaire et secondaire de la province éducationnelle Ubundu 3, antenne de l'OA. Depuis deux semaines, de nombreuses écoles ne fonctionnent pas normalement en raison de l'absence des enseignants. Ce dernier se rend à Kisangani pour régulariser leur situation salariale auprès de leur nouvel agent payeur, la Microbanque. Le président de la société civile de l'OA, Emmanuel Belengue, également directeur des études de l'Institut de l'OA, déplore cette situation et plaide pour un changement des méthodes de travail de cette institution bancaire afin d'éviter le déplacement des enseignants. Il a été joint par Jacques Moukonkolé.
Jusqu'au moment où je vous parle, il y a certaines écoles qui ne travaillent pas, qui ne œuvrent pas parce que les enseignants sont à Kisangani. De Mayunga à 36 km, il y a été Abbé Bouche, les directeurs et ses enseignants sont sur place là à Kisangani. Il y a été Karimoula. Même le jour où moi j'étais à l'OA, c'était le mardi dernier, j'ai croisé quelques enseignants au but en train de chercher une occasion pour la descente là à Kisangani. La microbanque là est en train d'exiger que les contrôles là soient physiques. Sinon, on opérerait d'autres histoires là-bas et les enseignants sont sur place. Des écoles. Mais la TID ne veut pas ça. Elle veut seulement contrôler physiquement les enseignants. Alors pour que les enseignants soient contrôlés, ils doivent abandonner les enfants, leurs écoles respectives pour se rendre à Kisangani. C'est ça le problème.
Nous nous excusons pour la qualité sonore de cet élément. En réaction, le directeur de la province éducationnelle Ubuntu 3 déclare que des dispositions sont déjà prises pour éviter le retard par rapport au calendrier scolaire dans sa juridiction. À cet effet, Norbert Motoya Kangala précise que les classes présentement sans enseignants sont regroupées avec celles dont les enseignants se trouvent sur place à Loa.
Actualité internationale.
Au Mozambique, l'inspecteur général de la police a été renvoyé. C'est le président lui-même, Daniel Chapo, qui l'a démis de ses fonctions jeudi 23 janvier par arrêté. Bernardino Raphaël était à la tête de la police nationale depuis 2017. Il était très critiqué pour sa gestion de manifestations post-électorales de ces trois derniers mois. Selon la société civile mozambicaine, leur répression a fait plus de 315 morts. Dans son communiqué, la présidence mozambicaine ne donne aucune explication au renvoi de Bernardino Raphaël. La presse proche de l'opposition comme Canal Mozambique ou Savannah salue quant à elle la chute du bourreau.
L'invité.
Notre invité est Trésor Kalongi, responsable du chapitre Afrique de l'Est du programme Yali, une initiative du département d'État des États-Unis. Avec Ronelyn Timbonera, ce jeune leader revient sur les avantages offerts par la deuxième phase du programme de civisme citoyen post-électoral des jeunes en RDC en faveur des jeunes Congolais lancé ce jeudi 23 janvier par l'ambassade des États-Unis à Kinshasa en faveur des jeunes Congolais.
Monsieur Trésor Kalongi, bonjour.
Bonjour.
En programme d'éducation civique, est-ce une priorité pour la jeunesse congolaise?
Bien sûr. On a toujours dit que tout n'est pas forcément question d'argent en ce qui concerne le développement, mais il y a de la volonté et au-delà de cette volonté, il y a la mentalité. Si vous n'avez pas la volonté et la mentalité, toute initiative de développement ne réussira pas. C'est pour cela que nous avons, avant les élections de 2023, d'abord voulu sensibiliser les jeunes parce qu'on s'était rendu compte que les jeunes, en 2006, en 2011 et en 2018, n'ont pas voté en masse. Pourquoi la politique ne les intéresse pas au point qu'ils ne votent pas régulièrement et de façon significative? C'est cette interrogation que l'ambassade a prise pour mettre en place le programme. Faire d'abord en sorte que les jeunes s'intéressent aux élections. Pourquoi il est utile de voter? En quoi le vote est un outil citoyen qui peut leur permettre de prendre leur vie en main? Avant 2023, nous avons fait des campagnes de sensibilisation et de formation. Nous avons monté comment décortiquer le programme d'un candidat, comment analyser le programme d'un candidat, comment voter pour un bon candidat en termes de projet de société, en termes de programme. Et avec tous ces outils, ils ont été capables de faire des choix qui correspondaient à leurs aspirations. À l'issue des élections, il y a eu un sondage qui a été réalisé et l'ambassade s'est rendu compte que de nombreux jeunes avaient pour la plupart participé pour la première fois au processus électoral grâce aux différentes formations qu'ils avaient obtenues. Et cela nous a encouragés à se dire que les jeunes s'intéressent à la gouvernance publique, mais encore faut-il qu'ils aient les outils qui leur permettent d'aller en profondeur. C'est comme ça que la deuxième phase de ce projet a été mise en place. Comme les institutions sont déjà actives, comment maintenant rapprocher ceux qui ont été élus avec les gouvernements? Nous ne nous limitons plus à ce qu'on voit quand quelque chose ne va pas, quand il pleut, il y a des inondations, on se limite
oui,
à
dénoncer. Parce qu'on doit vraiment parler de ça une année après, la jeunesse se mobilise pour voter des candidats, mais on a comme impression que rien ne change. Est-ce que ça c'est pas vraiment du perdre des temps?
Non, mais comment ça va changer si vous ne vous intéressez pas à ce qui se fait en votre nom? Je l'ai bien dit ici, ce qui est fait sans nous et contre nous. Et il faut qu'il y ait d'abord cette implication, cette volonté-là des jeunes de s'intéresser à la chose. Ça ne veut pas dire que vous avez élu un député et puis c'est là, vous êtes là, vous croisez les bras, vous attendez qu'il fasse tout pour vous. Le député n'est pas omniscient. Vous avez des ambitions personnelles peut-être. Vous avez des idées, tout le monde a des idées innovantes sur comment développer son entité, son quartier, sa communauté. Mais est-ce que les députés connaissent tout ça? Non. C'est pour cela que vous devez aller avec ces députés, avec ces conseillers pour leur dire moi je suis un jeune de telle commune, de telle avenue, voici l'idée innovante que j'ai pour développer mon entité. Est-ce que on ne peut pas prendre cela en compte dans la conception du programme de la commune, de la ville, du quartier? C'est ce qu'on veut. Que ça ne se termine plus comme on voit sur les réseaux sociaux. Moi, j'avais une bonne idée pour régler les embouteillages. J'ai écrit à tel, on ne m'a pas répondu. Moi, j'avais une bonne idée pour régler tel problème de courant, logette électrique ou quoi. J'ai écrit à tel, on ne m'a pas aidé. Non. Prenez maintenant ces idées innovantes-là. Allez voir vos conseillers communaux. Il y a des conseillers communaux. Vous intégrez ça parmi les projets de développement et les politiques publiques. Nous voilà une solution pour lutter contre le délestage. voilà une solution pour lutter contre tel phénomène, voilà telle solution. Et cela est pris en compte quand eux maintenant vont formuler la politique publique qui va aller avec le budget correspondant et tout ça. C'est comme ça qu'on développe une entité, pas en vase clos. Le député est là pour canaliser les choses. Vous, chacun à son niveau, a la prérogative de mettre en avant ce qu'il pense être juste ou utile pour sa communauté. Et c'est pour cela que nous avons lancé ce programme, donnant des outils à chaque jeune pour leur permettre de savoir comment on conçoit une politique publique, comment on intègre les objectifs de développement durable. Parce qu'attention, on ne fait pas des activités juste pour le plaisir de le faire. On les fait pour accomplir les ODD des Nations Unies.
Pour terminer, l'inaccessibilité des autorités, c'est un problème en République démocratique du Congo. Cette deuxième phase post-électorale a des réponses à cela?
Bien sûr, nous avons touché quatre bourgmestres dans les différents districts. Nous avons les députés nationaux que vous avez vus aujourd'hui, des députés provinciaux, des conseillers communaux. Et nous avons montré qu'il était important pour eux de se rapprocher de leurs entités. Et il y a des outils, par exemple des outils numériques qui permettent de renforcer. Et c'est vrai qu'il n'est pas évident de réunir tout le monde physiquement à un endroit, mais il y a des outils numériques aujourd'hui qui permettent de faire ce rapprochement-là de façon plus aisée. Et on apprend également à ces élus de pouvoir utiliser ces outils, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit la messagerie électronique ou bien d'autres plateformes, pour se rapprocher de leurs élus. Et si vous avez besoin d'intégrer le programme pour que vous puissiez également avoir les mêmes outils, vous pouvez nous écrire à info@yali.cd. Nous passerons dans votre commune. Nous allons également faire la même sensibilisation et la même formation pour que tout le monde ait accès aux mêmes opportunités.
Trésor Kalongi, Radio Kapi, vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Trésor Kalongi, responsable du chapitre Afrique de l'Est du programme Yali, s'est entretenu avec Ronéline Timbonera. Ce journal se termine sur Radio Kapi. Il a été mis en onde par Billy Landry Betou avec une coordination de Jude Mister Bilanda sous la supervision de Martin Sibujangwe. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie d'autres programmes de Radio Kapi. Restez à l'écoute pour plus d'informations et de divertissements passionnants.